vous avez le compte-rendu de du dernier conseil qui est joint, donc du 17 décembre. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu? Attendez, je n'ai pas fait l'appel d'abord. Je commence parce que je vais trop vite. J'ai d'abord commencé par l'appel. J'ai pas mon crayon. Alors, je fais l'appel. Isabelle Touzard, présente. Alain Valette-Vialard.
Présent.
Laurence Rousseau est absente. Serge Boulet.
Présent.
Claudine Moya.
Présente.
Denis Pierre est absent et a donné pouvoir à Béatrice Caglioni. Mylène Julliet.
Présente.
Laurent Mailloux est absent et il a donné pouvoir à Alain Valette-Vialard. Anne Jiménez.
Présente.
Laurent Moulin.
Présent.
Françoise Hazard.
Présent.
Romain Deloustal.
Présent.
Béatrice Taglioni.
Présente.
Mathias Mignard a donné pouvoir à moi-même. Ça. Béatrice Poncy est absente et a donné pouvoir à Claudine Moya. Johan Servigna est absent. Il n'a pas donné de pouvoir. Cécile Corsignos.
Présente.
Michel Battiti est absente. Et Gilles Chicot.
Présent.
Donc voilà, je passe au premier point de l'ordre du jour, donc qui est l'approbation du compte-rendu du Conseil du 17 décembre. Est-ce qu'il y a des observations?
Non.
Pour moi, non.
Donc une observation, on passe au vote directement. Qui vote contre ce Conseil, s'oppose? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité des présents. Et on va passer donc au point suivant, qui est l'approbation de la charte métropolitaine de gouvernance du plan local d'urbanisme. Donc cette charte vous a été envoyée. Donc c'est une charte qui est proposée au vote du conseil municipal, donc qui va être établie entre la métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole, et chacune des communes, des 31 communes. Donc il s'inscrit dans le cadre du transfert de compétences autour des questions d'urbanisme. Et donc, dans le cadre de la loi dite Allure, il est prévu, vous le savez, d'élaborer des PLU, des PLU intercommunaux. Et donc, cette loi prévoit également que le PLUI soit élaboré en concertation entre la métropole et en collaboration, pardon, exactement, entre la métropole et les communes. Et donc, l'objectif de cette délibération, c'est de fixer les modalités de cette collaboration, et qui donc vont être inscrites dans cette charte. En fait, le PLU intercommunal, l'objectif, c'est que ce ne soit pas simplement une somme, comme le croyaient certains maires au départ, d'ailleurs, au débat, mais on a bien expliqué le contraire. Le PLUI ne sera pas la somme des PLU communaux. Il s'agit vraiment de construire ce PLUI à partir de propositions et de projets venant des communes, mais il est consolidé, il est harmonisé, il est mis en cohérence vraiment à l'échelle de la métropole. Donc, dans le cadre du pacte de confiance donc qu'on a adopté ici, quand on a voté pour l'entrée dans la métropole, en même temps, vous vous souvenez, à la Libération, il y avait le pacte de confiance des maires. Donc il était prévu qu'il y ait cette collaboration soit aussi inscrite. Et donc, préalablement à l'adoption de la charte en conseil métropolitain, il est prévu qu'elle soit soumise pour avis dans chacune des communes. Donc, les objectifs et les dispositions de la charte. Donc, ça, dans la charte, qui est en détail, là, je vous en fais un résumé. Voilà, elle se présente comme ça, mais vous l'avez tous eu. Ce qui est annoncé comme principe, c'est la double pertinence des collectivités concernées. Donc, les communes, qui sont des collectivités de proximité, des citoyens et qui donc sont capables de relayer des besoins et des réalités locales, et puis la partager avec la compétence de la métropole, garante de l'aménagement cohérent et solidaire au niveau du territoire métropolitain. Donc comme je vous le disais, donc ce qui est inscrit, c'est que ce PLUI doit être élaboré à partir des réalités, nourri à partir des réalités locales. Donc ce qui est prévu dans cette charte, c'est que les modalités de travail suivantes. Les communes sont associées tout au long du processus d'élaboration du PLUI. Donc ça commence par une phase de recueil préalable de projets et d'enjeux locaux à l'échelle des communes. Ensuite, des réunions organisées à l'échelle des secteurs du SCOT. Vous savez que le SCOT, et le schéma de cohérence territoriale, est organisé en secteurs. Donc dans notre secteur ouest métropolitain, donc il y aurait une réunion, je dirais, à l'échelon au-dessus, quoi. Des réunions organisées à cette échelle-là pour construire une vision partagée déjà à l'échelle du secteur. Et ensuite, encore à l'échelon suivant, des réunions programmées entre la métropole et chacune des communes. Et ensuite, c'est la métropole, bien entendu, qui, dans le cadre de sa compétence, va mettre en place tous les moyens techniques, notamment études, prestataires spécialisés, etc., pour l'élaboration des zonages. Alors, parallèlement à ça, ce qui est prévu, c'est qu'on mette en place une gouvernance et qui associe très étroitement les maires, la conférence des maires de la métropole, pour suivre tout le processus. Donc, les objectifs, les modalités de concertation, elles sont présentées en conférence des maires. Le projet d'arrêt du PLUI est présenté à chaque maire, selon les modalités définies en accord avec chacun des maires, qui formule ses observations dans un délai de 1 mois. La prise en compte des observations écrites et le projet de PLUI sont présentés en conférence des maires, préalablement à l'arrêt du projet par le Conseil métropolitain. Donc, ce qui a été convenu dans le pacte de confiance, c'est que vraiment, ne sont soumis en Conseil métropolitain que les sujets qui auront été débattus et d'abord en conférence des maires, et l'objectif étant à chaque fois d'arriver à ce consensus avant d'arriver en Conseil métropolitain. Maintenant, cette conférence des maires elle a été mise en place, mais elle n'a pas de réel, enfin juridiquement de pouvoir, vous le savez, c'est bien pour ça que ça n'a pas pu être mis dans le décret de création de la métropole, alors qu'on l'avait demandé, certains maires l'avaient demandé. Voilà, donc on n'est toujours pas à l'abri, bien entendu, qu'à un moment, un maire ou deux s'oppose à un projet final. Ça, il faut être clair là-dessus. Suite à l'avis des conseils municipaux, les amendements éventuels, donc les conseils municipaux sont saisis entre-temps et émettent un avis et émettent des amendements éventuels qui sont présentés en conférence des maires, donc relayés par les maires au niveau de la conférence des maires. Et le PLUI, à la fin, tient compte des avis et remarques formulés pendant l'enquête publique par la conférence des maires. Les remarques de l'enquête publique sont également donc présentées en conférence des maires pour examen, préalablement à l'approbation du projet par le Conseil métropolitain. Alors, il y a une petite faute, il y a une coquille dans la délib, c'est pas PLUI, c'est PLU. Parce qu'en attendant que l'on passe donc à l'élaboration du PLUI, vous savez que les PLU des communes sont de toute façon maintenant passées les compétences métropolitaines. Donc, même si bien entendu, donc on a lancé par exemple nous une procédure de révision du PLU, je dirais c'est toujours nous qui sommes cheville ouvrière et qui mettons en place tout ça, mais juridiquement c'est porté aujourd'hui par la métropole. C'est la métropole qui prend en charge les études, etc. Et c'est juridiquement porté par la métropole. Donc c'est bien pour ça que je fais une petite parenthèse. De la même manière, alors que pour tout ce qui est compétences, voirie, espace public, etc., la métropole, vous savez, on a signé une convention transitoire, la métropole confie, rétro-confie, je dirais, à la commune, dans le cadre de la convention transitoire 2015, la gestion de ses dossiers avec les sommes correspondantes. La seule compétence que la métropole a gardée dès le départ, dès 2015, c'est la compétence PLU et projet en PLUI, parce qu'il faut qu'elle soit absolument cadrée juridiquement pour éviter tout risque de... Voilà. Donc, la charte, de la même façon, selon le même principe, qui définit les procédures d'évolution, enfin d'élaboration des PLU. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez maintenant des remarques, des observations à faire sur cette charte, si vous avez pu la lire, la regarder. Romain ?
Tu viens de dire que un ou plusieurs maires auraient la possibilité de s'opposer à un projet. Qu'est-ce qui se passe s'ils s'opposent à un projet ?
Ben après, de toute façon, on est en conférence des maires. De toute façon, au final, c'est le conseil communautaire qui est l'instance de décision. Donc, c'est... Non, une voix, un conseiller communautaire. Voilà. Donc Montpellier, 50. Voilà. Et nous, par exemple, Murviel, une voix. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait des navettes. C'est d'ailleurs ce qu'on a déjà fait dans le cadre de tout le processus d'élaboration des AC, de transfert de compétences. C'est qu'on en arrive, quand on est arrivé au vote en conseil communautaire des AC, elles ont été votées de mémoire au niveau des maires, à 26 ou 27 voix pour et des abstentions. Mais il n'y a eu aucun maire qui s'est prononcé contre au moment du conseil communautaire. Puisque justement tout ce travail de prise en compte des suggestions et des volontés de chacune des communes, qui étaient très différentes, hein, parce que les communes sont dans des situations très différentes.
Après, c'est le choix de chaque commune, parce que la commune de Gravel, c'est un conseil municipal a voté contre, et le maire de Gravel s'est abstenu. Donc ça, c'est le choix de chacun des maires. Mais il me semble qu'avant qu'on vote la métropole, on avait parlé de la possibilité d'un droit de veto pour le maire sur sa commune.
Non, ça c'est en conférence des maires. C'est-à-dire, si en conférence des maires, il y a un maire, mais c'est un droit de veto entre maires, c'est pas au niveau du conseil communautaire.
D'accord.
Au niveau du conseil communautaire, c'est régi par.
C'est un droit de veto qui n'en est pas un.
Non, mais là on revient sur le débat de la métropole.
Ah oui,
oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est.
C'est un droit de veto qui n'en est pas un.
Ce n'est pas un, mais ça on l'a déjà dit au moment du vote. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, l'élaboration, la phase qu'on vient de passer d'élaboration des AC, a montré qu'on est arrivé à un résultat qui a été voté pour ou en abstention de... René Rivol, pour le vote des AC, a voté pour. Parce qu'il a estimé que le processus qui avait été mis en cours, mis en place pour élaborer toutes les méthodes de calcul et tout, avait été fait de façon très partagée.
Ça c'est son choix.
Non mais...
Oui. Alors, ouais, je crois que si on se fie, si on regarde ce qui s'est passé avec les problèmes qu'on a eu avec la métropole jusqu'à maintenant, dans le cadre de tas de choses qu'on a pu avoir avec eux, on s'aperçoit qu'il y a, il y a vraiment une volonté de concertation. C'est-à-dire qu'on est dans les contacts qu'on a avec pour la révision du PLU, par exemple, pour l'ensemble des études de déplacement, études urbaines, etc. On a vraiment, pas le sentiment, ni l'impression, mais c'est la réalité. Qu'il y a une volonté de dialogue et de prendre en compte nos préoccupations. Donc je pense que ça va se poursuivre. Et que nos préoccupations n'ont pas l'air d'être extraordinaires, ni d'être complètement faramineuses ou complètement folkloriques, et qu'elles seront prises, je pense, dans le cadre de l'élaboration du PLUI, elles seront assez cohérentes avec ce qui va se faire. Et de toute façon, il y a cette phase de dialogue, c'est bien ça que la charte reprend, qui existe, hein, qui devrait permettre de ne pas arriver à des situations conflictuelles ou des situations de blocage, qui devraient être arbitrées par un vote du conseil communautaire. Parce qu'on arrivera à trouver toujours un terrain d'entente, un terrain d'accord, sans aller à une situation de blocage. Enfin, j'espère. C'est ce que je pense.
Ce que je pense, c'est que bon, il y a les statuts, bien entendu. Hein, c'est sûr que le statut de métropole, ça c'est clair. On a débattu, hein, on porte des compétences. Et puis, je dirais, à terme, voilà, amoindrit juridiquement le poids des communes sur certaines affaires. Mais ce qui compte, c'est les statuts d'un côté, les règles, mais aussi la façon dont, je dirais, au quotidien, dans les interactions qu'on mène avec les autres élus, avec les services, etc., et la façon dont on construit notre projet, et comment ce projet s'insère en cohérence avec le projet global. Et si sur ces aspects-là, on travaille, je dirais, dans un sens de cohérence et d'intérêt général, derrière, je dirais, vaut mieux avoir travaillé là-dessus et quelque part, voilà, on arrive à en tirer la plus-value, de la valeur ajoutée, plutôt que d'avoir une aglo, par exemple, être resté aglo, mais être dans des mauvais termes, et peut-être pas du tout en collaboration, et au résultat, le résultat final aurait été pire. Donc il y a autant les...
C'est pas le statut de métropole qui fait travailler les gens.
C'est bien pour ça, c'est bien ce que je dis. C'est que c'est sur les deux...
Je pense qu'il y a des communautés de communes qui travaillent en bonne entente et qui n'ont pas besoin de passer au statut de métropole. Mais bon, après...
Est-ce qu'il y a d'autres observations sur celle de Romain, sur cette charte ? Non ? Bon. Dans ce cas-là, on va passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à émettre un avis sur cette charte de gouvernance du PLU, qui sera aussi charte de gouvernance du PLU-I. Et donc, ça peut être intéressant. Je pense que là, Nathalie, il faudrait mettre PLU-I. Mettre un avis sur la charte de gouvernance du PLU et du PLU-I. Et d'autoriser Madame la maire, donc m'autoriser à signer tout acte et document relatif à cette affaire. Donc, on va procéder au vote. Qui vote contre l'adoption de cette charte ? Qui s'abstient ? Donc, Cécile, Torsinos et Romain de Moustal s'abstiennent. Donc, elle est votée à la majorité. Romain de Moustal, Cécile Torsinos. Abstention. Merci, donc on va passer au point, au deuxième point qui est l'ouverture de crédit avant le vote budgétaire primitif 2015. Donc le vote du budget va se faire lors d'un conseil municipal. On va vous donner la date très prochainement, mais ça va se passer et qui va être tenu début avril. On est en train de finaliser la date. Mais d'ici là, vous savez que pour que l'on puisse engager des dépenses en investissement, il faut que le conseil municipal autorise, nous autorise à le faire. C'est dans la note de synthèse, pardon. Ça y est. Vas-y, je l'ai. Voilà, donc là, on se réfère à l'article L1612-1 du Code général du CGCT. Qui dispose que dans le cas où le budget n'a pas été adopté encore avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement des recettes et d'engager, liquider, de mandater les dépenses dans la section de fonctionnement. On est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette. Et concernant par contre les dépenses d'investissement, cette autorisation porte sur délibération de l'organe délibérant, donc du Conseil, sur le quart des crédits ouverts au budget d'exercice précédent. Donc, nous vous indiquons dans le tableau les crédits de l'année 2014, et donc nous demandons l'autorisation d'ouvrir à hauteur de 25%, à partir de maintenant, l'autorisation de mener des dépenses, de faire des dépenses sur ces différentes lignes. Donc, vous avez le détail des lignes, hein, chapitre 20, 21, 23, 458. Donc, ce qui, au total, autorise à des dépenses pour un montant de 392 927,35 € au maximum. Est-ce qu'il y a des... Donc là, c'est une délibération, je dirais, un petit peu habituelle et technique et formelle. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet. Aucune. Voilà, donc on procède au vote. Qui est contre le vote de cette autorisation de dépenses donc en investissement ? Qui s'abstient ? Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je passe au point 3. Donc là, c'est moi qui présente beaucoup les points, parce que c'est des points qui ont été préparés par Laurence Rousseau, mais elle est absente, donc je la relaye. C'est des points financiers pour beaucoup hein, qu'on va aborder. L'augmentation des loyers des immeubles communaux au 1er janvier 2015. Donc on vous propose tout simplement d'augmenter les loyers des immeubles communaux à hauteur de 0,57%. Donc, conformément à l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2014. Donc, cet indice atteignant les 125,15. Donc, on suit l'évolution de l'indice de référence. Est-ce qu'il y a des remarques, explorations ? On passe au vote. Oui ? Non ? On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est à l'unanimité. Alors, nous allons passer à deux points nouveaux. qui n'avait pas encore été délibération qui n'avait pas encore été prise par le conseil, c'est la détermination de coûts horaires des agents municipaux pour des travaux en régie. Il est très lié ce point au point 5, détermination de coûts de matériel communal pour des travaux en régie. Donc je m'aventure, c'est un peu technique et Nathalie complétera s'il faut. Donc, au travers de cette délibération, on vous invite donc à fixer des coûts horaires qui nous permettront de créer des immobilisations autour de l'amélioration du patrimoine de la commune, du fait de travaux engagés en régie avec du matériel acheté, etc. Donc, je prends un exemple, les équipes municipales améliorent un local ou aux écoles ou au local des jeunes, etc. Il y a du matériel d'acheter, il y a du temps de passer par le personnel. Il est possible donc d'évaluer selon un barème, selon des paramètres que l'on va voter maintenant, le montant total correspondant à ce qui va constituer une immobilisation.
En fait. Enrichir le patrimoine.
Et enrichir le patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, ça, c'est éligible au FCTVA. C'est-à-dire que on pourra récupérer à hauteur de 15, presque 16% de cette masse, de ce volume global qui a été évalué, donc on pourrait récupérer le FCTVA. Donc c'est une disposition qu'il faut qu'on prenne, vous propose de prendre maintenant, puisque ça va se traduire en termes budgétaires au budget qu'on va voter au mois d'avril. Et là, je veux dire, c'est une décision qu'on prend maintenant, mais qui se répercutera sur notre budget dans 2 ans, quand on récupérera le FCTVA, parce qu'il y a toujours un décalage, quoi. Mais ceci peut nous amener à inscrire, on a commencé à faire des évaluations, une somme qui peut monter jusqu'à l'ordre de 100 000 euros. 16% sur 100 000 euros, ça fait 16 000 euros. Ce n'est pas quelque chose à négliger en termes de recettes potentielles à l'avenir. Voilà. Est-ce que Nathalie, tu veux
juste
compléter l'explication, puis après on passera au... Oui.
Pour compléter, en fait, c'est juste que, effectivement, c'est des dépenses de fonctionnement qui sont valorisées dans l'investissement. C'est-à-dire que c'est un jeu d'écriture sur lequel on va rebasculer des dépenses de fonctionnement, donc achat ou location de matériel, du temps à agent, qui sont rebasculées en investissement, donc qui deviennent une dépense d'investissement, pour le coup, pour qu'elles puissent être éligibles au FCTVA. Et donc, après c'est un jeu d'écriture, une recette en fonctionnement pour équilibrer après le budget. Mais c'est bien le principe de rebalancer en investissement des dépenses de fonctionnement. C'est la seule écriture qu'il est possible de faire, et c'est dans ce cadre-là juste que c'est possible de faire, pour récupérer justement une partie de TVA, donc qui sera ensuite...
Et c'était pas fait auparavant, ça ?
Non.
Non, mais après, toutes les communes ne le font pas. C'est un choix de valoriser les travaux rangés. Ici, il se trouve que beaucoup de travaux sont faits par les agents des services techniques. Ça représente une masse très importante quand même de valorisation du patrimonial. Donc ça vaut le coup de pouvoir en récupérer.
Et comment c'est évalué la quantité ? Parce que c'est une quantité.
Alors justement, ouais. Donc on a détaillé le volume de... On a fait une moyenne du coût horaire par agent. Et ensuite, sur chaque chantier, on va demander à l'agent du service technique de nous évaluer le temps passé. Donc, il va devoir préciser le nombre de personnes avec qui il a travaillé, combien de temps a duré le chantier, quels ont été les outils qu'il a dû louer ou utiliser pour ça, le petit matériel aussi qu'il a fallu acheter pour valoriser un patrimoine, pour le patrimoine communal. Après, c'est vraiment sur... donc, suite à cette...
Et en fait, la TVA, on va la récupérer que sur ce qui est fourniture.
Sur la main d'œuvre, puisque comme on le rebalance en investissement, c'est toute la totalité du coût du chantier qui peut être revalorisé.
Et c'est étonnant de récupérer la TVA sur la main d'œuvre qui n'est pas soumise à la TVA.
Mais justement, c'est parce qu'on l'a traduit en investissement.
C'est ouvrir la porte à des tricheries, ça. Dans l'intérêt de la commune. Parce que tu peux dire que au lieu d'avoir fait du nettoyage de voirie, on a fait des travaux de valorisation.
Il y a des mandats à la clé. On fournit toutes les pièces administratives justificatives.
Oui, mais ça n'empêche pas.
On n'a pas des fausses factures. On aura les factures de location de matériel.
Si tu achètes la peinture à faire dans le local, si tu achètes 10 kilos de peinture, tu ne vas pas mettre en face 10 heures de travail d'un peintre.
Oui, mais c'est ça, c'est les heures de travail que tu vas mettre en face, c'est très... C'est la réalité. Un petit peu ce que tu veux quand même.
Dans la limite de la condition sur la réalité. Oui, on peut trouver.
Il semblerait que ce soit un dispositif essentiellement favorable à la commune.
Oui.
Et donc il n'y a, a vraiment aucune contrainte derrière. Il n'y a rien. Non.
Il y a un petit peu de travail de compta, en plus de gestion pour évaluer, faire le demandeur en question, mais rien de plus. Alors là, en budget, au budget, on va voter un montant, bien entendu, estimatif, hein, au budget primitif. Si vraiment on constate en fin d'année qu'on va bien au-delà de ce qu'on avait prévu, on fera une réactualisation en DM. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres communes. Hein. Ce qu'on vous amène là, c'est parfaitement... Oui. On ne le sort pas du chapeau. Ça se pratique dans d'autres communes. Et depuis de très nombreuses années, et ça fait des recettes complémentaires. Donc il serait dommage de se priver.
Bien sûr. Il y a une liste de travaux.
C'est les travaux qui sont sur... Ouais, travaux en régie qui sont sur
le patrimoine communal
et qui visent à enrichir, à créer de l'immobilisation. Donc tous les travaux n'y sont pas éligibles, mais dès l'instant où ça enrichit le patrimoine sur sa
remontée des murs de pierre,
toiture, tout ça, effectivement, qui rendent la valeur au bien, du coup, est valorisé.
Alors, donc, il y a la première délibération, enfin, la délibération numéro 4 porte sur... Donc, vous voyez que pour pouvoir estimer ces sommes-là, il faut donner un coût horaire, vous voyez, au travail des agents. Donc, nous avons calculé un coût horaire moyen du personnel communal, donc, qui est indiqué dans le tableau qui est joint, annexé à la délibération. Donc, on l'a calculé sur la moyenne des salaires bruts et des charges patronales versées pour l'année 2014. Pour les 6 agents des services techniques. Donc vous avez le total, il y a un coût moyen horaire qui est de 17,06 €. Soit 119,42 € pour une journée de travail. Et donc ce coût moyen que l'on va définir maintenant, voter ensemble, sera revalorisé chaque année ensuite selon les barèmes indiciaires de la fonction publique territoriale. Donc nous le mettons à la délibération cette année, mais ensuite il sera revalorisé régulièrement.
Il y a un mode de calcul de ce barème ou c'est la mairie qui le fixe, ça ?
Non, là nous on est parti sur les chiffres réels,
les montants réels, on a fait une moyenne par rapport au temps horaire de chaque contrat.
Parce que dans une entreprise, on tient compte aussi des locaux.
De tout ce qui est l'environnement.
C'est pas que son
salaire. Non, là, c'est juste le salaire. Toutes les charges annexes n'ont pas été.
Après, on fera le matériel.
Parce que c'est vraiment l'investissement.
Les coûts environnés, ce que tu appelles les coûts environnés. C'est-à-dire un poste de travail à des fonctions support.
Parce que ça fait pas cher, en plus.
Ah,
bien
vu.
D'autres questions ? Bien, mais je passe au vote. Alors, pour adopter ce coût horaire moyen des agents municipaux pour des travaux en régie, qui vote contre ce coût moyen ? Qui s'abstient ? Donc, il est adopté à l'unanimité. Maintenant, de la même manière, il faut qu'on détermine le coût du matériel communal utilisé pour des travaux en régie, hein, pour les mêmes finalités. Et donc on vous a fait un tableau qui récapitule tous ces équipements en question. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise tout ce qui est dans le tableau, mais concrètement, ça comprend, vous voyez.
C'est un projet de délib, on a mis des montants. On est en train de les refaire parce qu'on a repris les nouveaux tarifs de 2015. Donc là, c'est les tarifs de l'année dernière.
Vous voyez, mais donc ça comprend tout le matériel possible imaginal, depuis les camions, les tracteurs maintenant, l'échafaudage. Donc ça, c'est pour les locations, là. Oui. Les groupes électrogènes, les marteaux-piqueurs, les tronçonneuses, etc., débroussailleuses, etc. Donc tout est repris, et donc on a pris les valeurs locatives, en fait. Et ce coût moyen, donc les valeurs locatives à la journée. Et une fois qu'on adopte ce coût moyen, il est revalorisé par défaut chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. Voilà. Donc je pense que c'est aussi intéressant, au-delà du processus, qui nous permet ensuite de récupérer le FCTVA, ce qui est intéressant aussi derrière ces paramètres-là qu'on établit, pour nous, c'est de pouvoir rentrer dans une dynamique de contrôle de gestion un peu et connaître nos coûts aussi. Donc ça pourra servir aussi au-delà de cette manip un peu comptable.
Non, puis même les salariés de la commune, à la fin de l'année, ils auront fait des travaux, enfin, c'est pas que du petit.
Ça donne une valeur. Ça valorise. Romain ?
Comment on va faire pour savoir qui a utilisé quel matériel pour faire le calcul à la fin de l'année ?
On ne sait pas, il ne s'agit pas de savoir quel agent.
Non, pas quel agent, même.
C'est le temps.
L'équipe municipale, comment tu vas savoir ? Le nombre d'heures qu'ils ont utilisé.
On a des contrats de location. On a des contrats de location.
Ça va être évalué aussi
pour chaque chantier.
Pour chaque chantier.
Et pour un matériel qui est utilisé en interne.
Oui, bah c'est comme ça qu'on fait. Si on a besoin d'un échafaudage, ou un échafaudage pour tel chantier.
La question pose pour du matériel utilisé en régie. Le nôtre.
Ah oui.
Si on utilise notre matériel, il va falloir que les agents
disent. Il n'est pas valorisé.
Bah, c'est pas valorisé, ça.
C'est pas valorisé,
non. Il est pas valorisé, non, parce qu'on est censé avoir de l'achat, récupérer déjà la TVA.
C'est déjà acheté.
C'est déjà acheté, après il y a des immobilisations.
Si on fait des travaux en régie, la mairie, elle va louer le marteau perforateur muréneur à la régie municipale à Muret de Montpellier. Mais comment ça va se passer pour les employés ?
Non. On va louer un magasin ?
Mais non,
c'est là il s'agit de location des
magasins. Si on va louer chez qui ?
Là, c'est du matériel loué à une entreprise privée.
C'est une société qui va nous louer.
Si c'est du matériel mairie, on ne le compte pas.
Ben voilà.
Parce qu'il a déjà
été acheté.
Il a déjà été
acheté.
C'est vraiment tout ce qui est loué. Avec contrat de location et facture de location à la
location.
Oui.
Madame Corsino, c'est
vous ? Oui, quand je vois la liste du matériel qui peut faire l'objet de contrat de location, je vois par exemple perceuse-visseuse, vu le prix de la location à la journée, c'est peut-être plus intéressant pour la commune d'acheter une perceuse.
Non, mais là, on a mis quelque chose d'exhaustif, vous comprenez, pour se couvrir au cas où.
Mais c'était la liste du matériel éventuellement.
Là, l'idée, c'est de ne pas revenir en délibération à tout moment. C'est au cas où, le cas échéant, on a vraiment besoin d'en louer une. On est bien d'accord.
Oui, oui.
On est bien d'accord. Non. Non, non, mais la logique même de tout le processus, c'est justement de travailler au maximum en régie. Hein. Oui. Non, mais là, l'idée, c'est d'être exhaustif pour qu'on passe ça une fois et qu'on ne revienne pas là-dessus, au cas où. Non, faites-nous confiance pour ça, pour utiliser. Voilà. Non, l'idée, c'est de pouvoir avoir ensuite à la compta, ils aient les outils pour pouvoir faire tous les calculs et pouvoir travailler. Donc, par rapport à cette deuxième disposition, est-ce qu'il y a, et donc à ces coûts moyens de location de matériel, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions. Donc, on adopte ces montants à unanimité. Alors là, maintenant, on va passer à autre chose, un autre point qui concerne donc le personnel et notamment le centre de loisirs. C'est l'autorisation de recrutement d'animateurs occasionnels pour surcroît temporaire d'activité. Le centre de loisirs donc fonctionne avec des titulaires et avec des personnes en contrat, des animateurs en contrat aidé, mais il arrive assez fréquemment qu'on ait besoin de recourir en urgence à un recrutement occasionnel de personnel en cas de surcroît temporaire de travail. Alors, en parallèle à ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est avec assez de difficultés, parce que c'est très difficile d'avoir les informations, mais on est en train de les rassembler, on y arrive. On est en train de travailler à des outils pour pouvoir anticiper, autant que faire se peut, les effectifs d'inscrits au centre de loisirs, en garderie du matin, garderie du soir et en TAP. Donc, c'est un travail qu'on mène, donc. Pour à la fois mettre en place un règlement intérieur qui permette d'anticiper les inscriptions et donc d'avoir de la visibilité sur les effectifs d'enfants et en fonction des taux légaux d'encadrement de pouvoir avoir un nombre d'animateurs qui soit adapté selon les normes. Donc on est en train de mettre en place ce règlement qui a donc il est déjà Serge, il est déjà paru pour et il faudrait voilà, mais on est en train d'y travailler, il est en train. Ensuite, ça c'est une première disposition, ce règlement intérieur qui va permettre de pouvoir anticiper. Ensuite, on en a déjà parlé ici, on va acquérir une application informatique dans le cadre d'un groupement d'achat avec la métropole qui doit aussi nous permettre de faciliter ce travail d'inscription et de planification. Donc, ce qu'on espère, c'est à terme pouvoir limiter le nombre de cas où on a des recours à des animateurs occasionnels, puisqu'il faut le savoir, ces animateurs occasionnels qu'on recrute sous forme donc, de mini-CDD coûtent à la commune. Donc, il faut arriver à rationaliser au maximum les ressources humaines au niveau du centre de loisirs. Mais en attendant d'arriver à ça, il est nécessaire que le conseil municipal nous autorise à, donc pendant la durée du mandat, à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984. Donc Nathalie pourra donner des précisions s'il le faut sur ce point. Pour une durée maximale de 12 mois renouvelable une fois exceptionnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces durées-là, là, c'est vraiment une durée maximale, mais là, de ce dont on est en train de parler, c'est souvent de CDD qui sont de quelques semaines ou voilà, quelques mois au maximum. Donc, les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions exercées et du profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ces emplois. Donc nous, on vous demande de délibérer là-dessus. Le Conseil ne s'était pas encore prononcé sur cette question. Il doit le faire.
Alors, c'est uniquement pour des fonctions d'animateur. Donc, ça touche pour nous essentiellement le centre de
animateur
loisirs.
Animateur occasionnel, oui. Ouais. Et centre de loisirs étape.
C'est-à-dire que ça nous donne le droit au niveau du droit du travail éventuellement pour une semaine, deux semaines, de faire des contrats aussi courts.
Mais on le fait déjà.
C'est bien pour ça, on le fait déjà sans qu'il y ait eu.
Ça existe, là, on a le droit de faire.
Ça existe et on n'a jamais délibéré. Ouais,
c'est une régularisation.
Ça permet en fait de faire figurer dans les contrats l'article de la loi qui a été modifié en 2012 qui permet justement, en cas de surcroît d'activité temporaire, de recruter des CDD dans une démarche plus rapide que celle à laquelle on est contraint habituellement.
D'accord. Donc ça, c'est une évolution du droit du travail. Est-ce que c'est lié parce que c'est souvent qui dit animateur dit BAFA. C'est ça, c'est ce niveau de diplôme.
C'est le niveau de diplôme
qui l'autorise.
Mais non, il n'est pas exigé.
Il n'est pas exigé. Il n'est pas exigé pour ça parce que dans le cadre du centre de loisirs, il faut il y a un nombre minimum de BAFA dont on a besoin pour l'encadrement. Mais il faut pas, il n'en faut pas trop, il n'en faut pas.
Pas assez. Et ça, vous vous appuyez pour au niveau du recrutement dans ces cas-là sur des, j'imagine, des candidatures spontanées que vous avez.
Bah, soit, ou alors on fait des vrais recrutements.
D'accord. Non, c'est pas, il n'existe pas un pôle de candidature, non. C'est
bah si, il y a déjà des personnes dont on a les CV et qu'on connaît par expérience et qu'on a déjà.
Ils ont déposé des CV à la mairie.
Voilà.
D'accord.
Mais l'idée quand même, selon le besoin.
Autant que faire se peut, quand il n'y a pas d'urgence et quand le contrat est sur une durée quand même suffisante, on procède par publication de fiches de poste et avis de recrutement publiés, transparents, etc. Maintenant, il y a des remplacements qu'il faut faire parce qu'on apprend le matin ou on apprend très tardivement qu'une personne est en congé maladie ou qu'au contraire, il y a un surcroît, c'est en cas de surcroît de travail ou qu'on a des effectifs pendant les vacances, par exemple, et il vous faut, dans l'état actuel des choses, pouvoir agir rapidement.
Ouais. Ce que je voulais, ma question, c'était de savoir si, en plus, ça vous demandait de passer comme par un centre de gestion de gens qui... si simplement on le faisait... C'était pas très légal. Voilà. D'accord. Très bien.
Bon, c'est pas que c'était pas légal. Ça n'avait pas été. C'était pris en délibération.
Est-ce qu'il existe au niveau des communes qui vont autour
un pool, on va dire, existant de personnes qui peuvent répondre rapidement à ces problèmes. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce genre de problématiques.
En fait, il y avait dans le cadre du CIVOM, il y avait la compétence animation qui était mutualisée, et au même titre que la cantine ou que d'autres sujets. Et effectivement, il y a aujourd'hui 8 communes, parce que ça s'est élargi avec la dissolution du CIVOM. Il y a des communes qui sont rentrées, encore Saint-Javédas il y a un mois, pour mutualiser les activités, les sorties, les moyens généraux et aussi un personnel pour lorsqu'il y a des besoins ponctuels dans des communes, pour être capable d'avoir cette souplesse-là de mutualiser du personnel. Il se trouve qu'en 2013, à Murviel, on est sorti de ce pôle d'animation de l'ex-CIVOM, ce qui fait qu'on n'a plus cette possibilité-là, et on va très vite cette année demander à y retourner. Pour, ben voilà, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne tout seul dans notre coin avec nos problématiques, on n'a pas mutualisé à la fois nos besoins et puis aussi nos compétences. C'est pas mal. Ben, c'est voilà. Dommage.
Encore silence ?
Oui, j'entendais tout à l'heure que vous disiez que c'était, outre le fait de pallier au surcroît d'activité liées aux vacances scolaires ou autres, aussi aux absences pour arrêt maladie, hein, bien entendu. Mmh. Et connaissant bien la rigidité du droit du travail, je me demande s'il ne faudrait pas rajouter dans la délibération justement la possibilité d'embaucher en CDD pour les absences d'un salarié, le remplacement d'un salarié malade, tout simplement.
C'est pas soumis à délibération.
Pour pas prendre le risque justement.
C'est pas le cadre de cette délibération.
C'est pas soumis à délibération. Quand on recrute pour absence de personnel, il y a un article spécifique et on n'a pas besoin de délibérer. Donc quand on est. Voilà. Mais sinon, il existe effectivement cette possibilité-là dans le cadre de la loi.
Ouais.
En cas d'absence pour maladie, on peut être autorisé à recruter plus rapidement, justement. Et il n'y a pas besoin d'être... Enfin, on peut le faire, hein, mais...
Donc là, c'est vraiment dans le cas de surcroît de travail. Donc ça, c'est plus la question de la maîtrise des effectifs. Donc je vous dis, moi, ce que j'espère à terme, c'est d'avoir de moins en moins à avoir recours à cette situation-là, par les dispositifs dont je vous parle. Mais en attendant, il faut quand même qu'on ait cette autorisation.
C'est encadré au niveau du temps, enfin, du délai de 12 mois maxi. Est-ce que c'est encadré au niveau des heures, du temps de travail, du nombre d'heures? On peut prendre quelqu'un pour 2 heures, 3 heures? D'accord. Il n'y a pas du tout de...
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Après, ça sera un volume horaire mensuel qu'on fera figurer dans le contrat. Et pas forcément un
volume horaire hebdomadaire. Oui, mais ça peut être...
Y a-t-il d'autres questions sur ce... Bon, on va procéder au vote. Donc, êtes-vous, par rapport donc, à cette autorisation à recruter des animateurs occasionnels pour surcroît temporaire d'activité, êtes-vous contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. On passe au point 7. Toujours dans le même, un petit peu le même esprit, les mêmes objectifs. Là, il s'agit du recrutement d'agents vacataires. Donc là, c'est une délibération qu'on prend pour l'année, hein, pour l'année 2015, donc notamment pour les périodes de vacances. Donc là, c'est pour le centre de loisirs, le CLSH, hein, donc mercredi et vacances scolaires. Donc les pitchounes. Donc là, pareil, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait préalablement. Donc, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 qui portant droit et obligation des fonctionnaires et la loi 84-53 du 26 juillet 84 modifiée portant disposition statutaire relative à l'action publique et l'article 3.1, donc ce que je vous propose, c'est de créer 2 emplois de vacataires pour les périodes des vacances scolaires 2015. Donc, là, il s'agit de recrutement à la journée ou à la demi-journée. Hein. C'est ça, la vacation. Et ce sont, pareil, des postes d'animateurs chargés d'accueil et d'encadrement d'enfants et d'adolescents. Donc là, pareil, c'est des dispositifs, des positions auxquelles on a recours, parfois, et il nous faut autorisation du conseil municipal pour pouvoir le faire, avec les rémunérations suivantes en brut journalier: 60 euros brut journée, 30 euros brut demi-journée, 100 euros brut journée et nuit. Donc là, je laisse Nathalie peut-être compléter, ou s'il y a besoin.
Ben, oui, juste peut-être dire, je ne l'ai pas précisé dans la délibération, mais en fait, c'est très spécifique les vacataires. Il y a 3 critères qui doivent être absolument remplis pour pouvoir être considérés comme vacataires. On ne peut pas abuser du statut de vacataire, sachant qu'il est très bien pour les collectivités, puisqu'on paye des agents à 60 euros brut la journée, donc ça peut être attractif. Mais il y a bien 3 conditions qui doivent être remplies. C'est occuper un emploi qui n'est pas permanent et qui est en dehors de toute considération de volume horaire, qui bénéficie d'une rémunération qui est attachée à l'acte, donc voilà, animation ou encadrement, et sur des états d'heure mensuels, et qui effectue une tâche précise et déterminée dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en vacataire quelqu'un qui intervient sur les tapes, par exemple, parce qu'on peut considérer que comme ça, il intervient sur 36 semaines et que c'est récurrent, ça peut être aussi confié à un CDD. Donc là, c'est encore un autre statut. Donc voilà, vacataire, c'est vraiment, c'est à la journée, sur des camps, si on a besoin d'un animateur en plus, pendant la période de vacances scolaires, là, on pourra faire ce type de contrat. Mais on ne peut pas faire des vacations comme ça pour...
La journée, c'est 8 heures.
Ça dépend, ça peut être 10 heures aussi.
Pour le même prix.
Un vacataire, oui, c'est là, c'est à la journée.
Ça, après, c'est de l'animation, les journées d'animation.
Mais c'est le. Après, on s'est renseigné, c'est les tarifs.
C'est
les
tarifs vacataires. J'ai nos collectivités voisines.
Mais tu fais ça, tu pars en prison. Et dans le public, on s'en lève.
Mais non, justement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Quelqu'un qui a. Enfin, voilà, un jeune stagiaire, plutôt que de le prendre et de ne pas le rémunérer, on va le prendre en tant que vacataire, par exemple, sur une période de vacances, et il sera content d'avoir. Enfin, dans le cadre de son stage.
Oui, mais c'est différent. Et là, c'est quasiment de la formation. Oui,
mais souvent, les vacataires, c'est
des jeunes. Un jeune qui a le BAFA et qui va partir au centre aéré travailler par la France de Pâques, il va quand même toucher que 60 euros.
Non, mais s'il intervient ponctuellement la journée, un jeune
qui va... jours de vacances, oui, après,
c'est pire. Ouais, mais c'est pire.
C'est que ça reste des emplois précaires.
C'est une critique générale. Oui, c'est pas... C'est de l'État, c'est pas local.
Ouais.
Mais en effet, ça veut dire qu'un jeune pour une demi-journée va toucher 30 euros brut. Ouais. En plus, c'est congé payé compris, là. D'accord ? Donc, c'est scandaleux.
Et oui. C'est limité en nombre ? On a le droit à combien de vacataires ?
Deux.
Deux, on n'est pas limité.
Nous, on propose deux, mais on a le droit à combien de vacataires ? Autant qu'on veut.
Dans la mesure où on peut justifier du besoin, qu'on n'a pas de personnel... qui pourrait faire justement ça.
Il y en a qui ne veulent bien.
Bah, c'est vraiment un cas exceptionnel pour encadrer la vacation. Quelqu'un qui interviendrait par exemple, là on a mis pour le centre, mais pour des visites du site archéologique par exemple, il arrive parfois qu'on fasse appel pour une journée ou pour 2-3 heures à un vacataire, bah, c'est le tarif qu'il va prendre pour ces quelques heures. Voilà, après c'est.
Mais nous, là, on le détermine dans un cadre bien défini, nous, CLSH, hein.
Oui.
C'est ça.
Oui, oui. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est
encore on pourra peut-être
la fluctuation de la fréquentation.
Vous pouvez estimer, j'imagine que c'est ça qui nous pose toujours souci.
Voilà. Voilà.
Ça, ce sont les tarifs qu'on a regardés. Nathalie, je vais demander de regarder dans les autres communes alentours. C'est les tarifs qui sont pratiqués dans les communes alentours.
Après, la réflexion, c'est que, est-ce que, éthiquement parlant, on peut envisager qu'on va essayer de recourir à vraiment que de façon exceptionnelle à ce type de contrat, si on est plus ou moins tous d'avis que c'est quand même une forme déguisée de...
C'est des solutions de dépannage.
C'est
vraiment,
au niveau éthique, c'est vrai que...
Ça fait moche.
Dire global social, c'est quand même assez... C'est délicat de soutenir ce genre de...
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument... J'y reviens. Hein. Là, c'est plutôt de régulariser des choses, vous comprenez, hein, qui se font.
Oui.
Par contre, vraiment, ce travail qu'a décrit Serge, de se dire il faut qu'on arrête à Murviel de essayer de résoudre seul dans notre coin ces problèmes de RH qui sont très compliqués à gérer au niveau du centre de loisirs, parce que vraiment, c'est en termes de gestion des... Les ressources humaines, c'est difficile pour un terme quantitatif. Donc, en étant à une échelle beaucoup plus large, en ayant ce système d'anticipation des inscriptions, de prévision, etc., on doit pouvoir arriver avec les titulaires, les contrats aidés, les personnes en contrat aidé, les CDD, etc., à pouvoir avec une annualisation, je dirais, bien pensée, bien planifiée, à limiter le recours à ce genre de situation. Mais il faut quand même qu'elle soit cadrée.
Parce que c'était fait jusqu'à présent.
C'était fait.
Sur un arrêt maladie, on passera pas par un
vacataire. Mais ça ne sera pas...
Pas ça,
non.
Ça
ne concernera pas un remplacement
de titulaire. Seul un titulaire peut être remplacé. Par exemple, une personne en CDD ou en CAE, on ne peut pas remplacer par un. Voilà. Enfin, on remplace, mais ce n'est pas sur les mêmes dispositifs. Ce ne sera pas le même contrat. Donc là, c'est vraiment pour une action spécifique où on a besoin d'un animateur spécial. Je ne sais pas, enfin, après. Sur les camps, effectivement, quand vous avez le personnel en vacances, parce que voilà, les agents du centre prennent aussi des vacances, sur ces périodes-là, il faut pouvoir assurer les camps et les animations. Donc ça permet d'avoir recours à des agents.
Oui, mais sur un camp, on est sur du 24 heures de travail.
C'est prévu,
c'est prévu, une journée plus.
Il n'y a que là qui gagne sa vie.
Voilà.
Il
fait la nuit.
Par 15 jours, c'est un salaire normal. Mais il faut qu'il dorme sur place.
C'est aussi l'animation de camp. L'animation de centre avec couchage à l'extérieur, c'est ça aussi.
Oui.
C'est que forcément, la nuit, tu es là, tu as besoin d'une présence, mais enfin, tu dors quand même.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres observations, questions sur ce point?
On n'est pas très enthousiaste.
Non, mais bon. Alors, je vais passer au vote. Donc, pour le recrutement d'agents vacataires pour l'année 2015 pour le CLSH Les Plitchounes. Donc, cette proposition, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, on va passer donc au point 8. Donc, l'approbation d'une convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité en préfecture de l'Hérault. Donc c'est un ordre du jour assez administratif, je dirais, cette fois-ci. Mais bon, ça nous permet ensuite de travailler pendant l'année dans des conditions stabilisées, je dirais. Et... Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la loi de décentralisation donc, du 13 août 2004 prévoit, donc relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que les collectivités territoriales peuvent effectuer par voie électronique la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Donc, c'est notamment, par exemple, les délibérations des conseils municipaux. Donc, je ne sais pas, Nathalie, vous pouvez peut-être faire la liste de quelles pièces il peut s'agir. Là,
les après, il y a ça, effectivement, il y a les budgets, il y a tout ce qu'on transmet à la préfecture et qui est soumis au contrôle de légalité, plutôt que d'attendre qu'on ait un agent qui aille à Montpellier les déposer, et qui prennent sa voiture et qui fassent l'aller-retour, et puis qui aillent les rechercher une fois qu'elles ont été tamponnées. Là, on appuie sur un bouton, c'est signé, ça part, et dans l'heure, on a le retour du visa de la préfecture, ce qui fait que les délibérations sont rendues exécutoires. Alors ça, on avait fait pour autoriser des flux financiers, effectivement, administratifs, mais c'était pour le coût du... Parce que ça, en principe, il y a un coût pour la signature électronique, et avoir quelqu'un, c'est précisé dans la délibération, mais qui fasse le raccordement et la transmission. Et donc c'est ce qu'on avait délibéré la dernière fois, mais surtout pour les flux financiers. Et pour les flux administratifs, il faut conventionner avec la préfecture pour que voilà, on s'entende sur le fait qu'on allait désormais gagner du temps. Et du papier et de l'argent.
Voilà, donc c'est une convention que on vous demande de m'autoriser à signer avec monsieur le préfet. Cette convention prévoit donc la date du raccordement de la ville, donc de Murviel à la chaîne de transmission, la nature, les caractéristiques des actes qui seront transmis, les engagements respectifs. C'est très important de le cadrer parce que derrière il y a toute la question des recours juridiques qui peuvent se faire sur ces actes-là. Donc il faut que ce soit bien cadré. La convention prévoit également la possibilité pour la collectivité de renoncer à la transmission par voie électronique et dans quelles conditions on y renonce. Et elle est conclue pour un an. Et elle prend effet dès la signature et elle est reconductible ensuite tacitement chaque année.
Donc, je propose au Conseil de décider de procéder à la télétransmission des délibérations et des décisions du maire, d'approuver les termes de la convention qui a été jointe à la délibération, donc entre la ville de Murviel et l'État représenté par M. le préfet, et m'autoriser à signer tous les, la convention et tous les documents y afférents. Madame Corsino, c'est vrai ?
Oui, dans la convention qui était jointe à la convocation d'aujourd'hui, il était indiqué en page 6 que la nomenclature des actes était jointe. Est-ce qu'il serait
possible?
On n'a pas eu la nomenclature des actes.
Vous pouvez aller là-haut dans notre bureau, parce que c'est. Enfin, oui, je peux vous la donner. Je vous l'envoie par mail. Je le fais tout de suite.
Mais ce qui est dit, c'est écrit. Je crois que précisé dans. C'est pas précisé dans le corps
du texte. Non, mais c'était parce que. Enfin, c'était pas.
Mais c'est essentiellement les délibérations du conseil, les délibérations du conseil, les décisions. Ils sont
enregistrées. Oui, c'était parce que. Voilà,
page 6.
Page 6.
3, 2, 4.
Page 6 de la convention. Oui. Dans l'article 3.2.4, type d'acte télétransmis. Oui, c'est ça, elle est fixée dans l'annexe. Voilà, on l'annexe, on va la mettre, on va vous la commander.
Elle prend tous les types d'actes.
Je peux vous les lire,
hein,
si vous voulez
bien lire.
Hop, je vous les envoie.
On va vous les lire.
Il faut que je le...
Vous la lisez maintenant, parce qu'on va chercher un vote. Non, c'est pas fait. Bon, alors on va passer donc, au vote. Pour la décision de procéder à la télétransmission et donc d'approuver les termes de la convention et m'autoriser à la signer. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Alors en questions diverses, je vais juste vous faire part de trois décisions récentes. Parce que.
Juste pour la nomenclature, juste pour vous dire la nomenclature en fait, pourquoi je l'ai pas mise, parce que c'est en fait c'est en interne, donc chaque délibération, on va lui affecter un numéro selon la thématique. C'est-à-dire que si c'est un vote de budget, ça sera dans la nomenclature, on devra nommer notre délibération 3-1.2 pour la télétransmettre de façon à ce que dans chaque service il sache. Et en fait, ça c'est des trucs qu'on fait en interne. Où nous on applique, si c'est une demande de subvention dans la nomenclature, c'est tel truc, si ça concerne le personnel. C'est la nomenclature 4.1. Donc nous, à force, sur chaque délibération, quand on la télétransmet, on lui affecte un numéro. Mais bon, je ne l'ai pas mis parce que... Enfin, mais
vous permettez juste d'avoir pour information les types d'actes qui étaient concernés par la télétransmission.
D'accord. En fait, c'est toutes les délibérations.
D'accord.
Et arrêté ou tout ce qui est transmis. Après, les thématiques, ben, je vous les envoie. Hein. Pas de soucis. Mais il y en a beaucoup.
Alors, pour en questions diverses, donc trois points sur des décisions récentes, décisions du maire. Donc, elles vous seront au prochain conseil municipal. On mettra dans le dossier ces décisions. Mais déjà oralement. La première décision a été celle d'une décision relative à l'acquisition d'une parcelle agricole. Donc. Vous savez, nous, on a dans le cadre de notre politique le souhait de vraiment préserver les terrains agricoles pour les agriculteurs, mais au-delà de ça aussi, d'être très vigilant sur les parcelles qui peuvent s'avérer être en zone agricole, mais qui, dans le cadre de notre projet urbain, doivent être préservées aussi pour des conditions urbanistiques, je dirais, hein, paysagères, etc. Donc, nous avons eu connaissance d'une transaction via une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, pour une parcelle agricole située à l'entrée du village sur la route de Pignan.
et donc qui était donc d'une transaction qui était en vue à un montant, pour un montant de 17 euros du mètre carré. 15 euros du mètre carré. Donc parcelle classée en zone agricole, située en plein cône de visibilité de la commune. Donc le conseil général n'a pas préempté, mais il ne le fait plus de toute façon, il n'achète plus aucun terrain. Donc nous a transmis le dossier, la DIA. Et donc nous avons décidé de préempter.
On va faire une évaluation par les domaines du prix du terrain en fonction des transactions qui avaient eu lieu dans le secteur. Et puis on a notifié aux acheteurs et aux vendeurs, aux notaires, que l'on préemptait cette parcelle-là à un prix de 2 euros le mètre carré.
Voilà, donc nous avons, donc au-delà de la démarche, je dirais auprès voilà, du dossier que nous avons rempli et adressé aux notaires et aux parties, nous avons rencontré les acquéreurs pour leur expliquer notre démarche, leur expliquer que ce terrain, de toute façon, ne serait jamais constructible. Pardon ?
Les
acquéreurs, et puis ensuite le vendeur. Mais d'abord les acquéreurs, nous sommes allés voir. Parce que c'est, donc les personnes pensaient, en acquérant le terrain, investir, on fait dire placer sur un terrain qui pourrait bénéficier, c'est de nous expliquer un jour à leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà, c'est la logique, je dirais, classique de placement. Sauf que, voilà, c'est pas ce type de terrain. Il est important de bien comprendre que si on laisse passer ce genre de transaction, certes, ce terrain ne s'est jamais construit, mais on assiste du coup à une flambée du prix du terrain agricole, et ensuite, ces terrains deviendront inaccessibles pour les agriculteurs. Donc, pour nous, il est vraiment clair qu'il faut travailler pour maintenir le prix de ces terrains voués à l'agriculture au prix agricole. Donc, ce que nous avons fait, donc ce que nous avons expliqué aux acquéreurs qui ont tout à fait bien compris, donc sans aucun souci. Également à la propriétaire qui était un peu plus déçue, ça c'est sûr, mais bon, même si elle nous a garanti qu'elle avait bien expliqué aux acquéreurs que ce n'était pas constructible, ce ne serait pas constructible, voilà, elle était déçue de ne pas pouvoir vendre son terrain à 15 euros du mètre carré. Voilà, et donc, bien entendu, la propriétaire ne souhaite plus vendre. On a pourtant essayé de voir avec elle dans quelle mesure ce terrain au moins pouvait ne plus rester en friche et être mis à disposition de, voilà, d'agriculteurs ou quoi. Donc, pour l'instant, non. Mais voilà, je voulais vous faire part de cette décision. Donc, du coup, on ne va pas acquérir ce terrain, mais j'avais pris cette décision. Et c'est simplement pour évoquer, donc, à l'occasion de ce conseil, cette politique que l'on a. Et je pense que c'est important de continuer, donc d'être très en veille sur toutes ces transactions, de travailler étroitement avec les viticulteurs, bien entendu les agriculteurs, pour connaître aussi en face leurs besoins en terrain, pour que tout ce travail-là se fasse en cohérence avec eux. Donc voilà, donc ça signifie qu'en même temps qu'on mène ce travail de veille, je dirais, sur le foncier, que l'on travaille au projet de développement agricole, au projet agricole de la commune. Donc ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que Laurent Mailloux n'est pas là, il est absent, et puis on y reviendra avec vous. Mais le travail sur ce projet agricole, un petit peu, va être entamé très prochainement, pour justement se donner des lignes directrices. Mais voilà, en parallèle, faire ce travail, c'est très important au niveau du foncier. Deuxième décision...
Sur ces types de procédures, il y a des DIA qui nous comprennent, sur lesquels on ne réagit pas. Il y a eu des achats de vignes par d'autres viticulteurs. On a la DIA, on n'a pas réagi parce que ça reste dans le cadre dans le cadre agricole. Mm-hmm. C'est vraiment là, on a réagi à cause de différence de prix au mètre carré entre la valeur du terrain telle qu'elle était aujourd'hui et l'acquisition.
Alors, la deuxième décision, pour votre information, nous avons recruté le bureau en bord pour faire l'assistance à maîtrise d'œuvre sur l'extension du dépôt archéologique à côté des locaux techniques. Voilà. Donc, juste pour votre information, donc on a commencé à travailler avec ce bureau pour établir le chiffrage définitif selon différents scénarios et pour que eux de l'autre côté. Donc on travaille à ce projet avec les archéologues, avec la métropole, le conservateur du musée de Latte qui est impliqué, et avec la DRAC, voilà, Monsieur Sachaud, pour mener à bien ce projet. On est très vigilant sur la conduite de ce projet parce que les archéologues aimeraient bien avoir beaucoup de choses dans ce bâtiment. Il faut rappeler quand même, au départ, on l'a voté ici l'année dernière, c'est un projet d'extension de dépôt. Donc c'est une fonction bien précise. Voilà, il ne s'agit pas d'en faire des bureaux ou des locaux. Donc faut vraiment, on est très vigilant à ça. On vous tiendra informé de cette évolution. Et puis, je vous informe aussi d'une troisième décision. C'est la décision de recruter le fait que l'on ait voté tout à l'heure les crédits, l'ouverture de crédits pour les investissements. Donc, ça rentre là-dedans. La décision d'élaborer un PCS, un plan communal de sauvegarde. Il s'agit donc d'un plan, d'avoir recours à Prédict. Prédict, vous savez, c'est l'agence qui, par ailleurs, a été recrutée par la métropole, enfin l'agglomération devenue métropole, pour venir en appui aux communes dans le cadre des événements, de tout ce qui est prédiction des risques climatiques, donc risques liés notamment aux inondations et aux... Voilà, donc dès que on commence à rentrer dans des prédicts, dès qu'on, niveau climatique, météo, on rentre dans des périodes un peu d'orage ou de pluie violente, etc., on est suivi par Prédict, qui nous tient informés, qui nous conseille ce qu'on doit tenir. Donc là, Prédict a aussi une compétence pour élaborer ces PCS, plans communaux de sauvegarde. Ce sont des plans qui permettent ensuite aux élus et à Karim Amran, le policier, etc., de pouvoir définir des références, des points de référence. Par exemple, l'eau arrive à tel niveau, à tel endroit, ou on constate tel niveau à tel autre endroit. Pour, en fonction de ces niveaux d'atteinte, de ces différents niveaux, prendre les mesures qui s'imposent à chaque fois, en adéquation. Quand on arrive à tel indicateur ou tel paramètre, il faut évacuer tel locaux. Quand on arrive à tel niveau, il faut prendre telle décision. Donc c'est une aide à la décision ensuite qui permet de pouvoir réagir et de s'organiser très rapidement si un événement de ce type-là survient. Donc, suite aux événements climatiques de l'année dernière, qui ont quand même fait beaucoup de dégâts sur différentes communes de la métropole, il est important, et d'ailleurs il a été convenu entre les 31 communes de la métropole d'adopter des PCS le plus rapidement possible. C'est une disposition, c'est quelque chose qui est obligatoire.
Et puis ça avait été délibéré de toute façon en 2011.
Alors allez-y, ouais.
Oui, l'ancienne municipalité en 2011 avait déjà délibéré sur l'engagement dans un PCS, puisque de toute façon c'est réglementaire. Comme il n'avait pas été suivi et engagé, il fallait le faire, parce qu'on a, voilà, le préfet nous invite
très fortement
à réaliser.
Alors on a des subventions pour faire. Donc là, l'étude s'élève à 4500 euros hors taxe, et on a des subventions à hauteur de 1400 euros. Donc c'est pas un budget énorme, mais voilà, il faut le faire, c'est important, et avoir déjà ces outils dès cette année, donc en prévision d'éventuels épisodes orageux au printemps ou à l'automne.
Il y a le feu aussi, il me semble qu'il faut...
Il y a aussi la question.
L'incendie aussi qui est pris en compte.
Voilà.
Et ces informations météo, est-ce qu'on peut en disposer Est-ce que tout le monde peut en disposer
Je crois. Non. Il n'y a que quelques numéros qui ont été transmis.
Je pense que c'est les agriculteurs.
Alors après, nous on a donné donc trois numéros de téléphone qui permettent d'avoir. Pardon ?
Je dis merci pour le téléphone.
Oui, c'est apprécié, ça se fait bien du matin. Mais ensuite, avec nos numéros, nos codes, nous avons accès à un site internet qui permet d'avoir pas mal d'informations en direct. Et puis maintenant, pouvoir mettre à disposition ces informations-là de façon plus large, on pourra se renseigner, mais je ne crois pas.
Donc tu ne sais pas. C'est des moments où il y a des décisions, du suivi à faire, et c'est pas à ce moment-là qu'on communique, Et il faut limiter les accès pour que ce soit plus efficace. Par contre, il y a d'autres sites, de type de Météo France, oui, Vigicru vous donne une délégation. Là, c'est vraiment des images qu'il faut pouvoir un peu interpréter. C'est à la fois des données fournies par les pluviomètres, fournies par des images radar, les images de Météo France, et qui sont assemblées pour pouvoir... lors du dernier événement, on voyait très bien, quand ils ont téléphoné à minuit, je crois, pour me dire « Attention, il y a un truc qui arrive sur Muriel », on était connecté sur leur site, et on voyait très très bien, effectivement, les deux masses d'eau qui arrivaient, qui passaient une sur Montpellier et l'autre sur... vers l'Odève, et que Muriel était juste à côté, était entre les deux, et n'avait probablement rien. Ce qui s'est passé, il n'y en a pas eu grand-chose cette fois-ci. Par contre, la première fois, quand on l'a vu, alors là, on est en plein dessus, et on a eu de l'eau. Mais ce sont des éléments qui nous donnent, pour nous dire, attention, vous allez avoir un phénomène pluvial important, vous avez des risques qui arrivent, donc du coup, on pourra mettre en œuvre avec le PCS les mesures qu'on aura prévues, si c'est nécessaire. Mais là, jusqu'à maintenant, c'est de dire attention, allez faire un tour, voir s'il n'y a pas des voitures coincées quelque part, si tel ruisseau ne déborde pas par rapport à la maison de retraite, etc.
Juste pour compléter, Alain, ce qui sera intéressant pour relayer un peu ce que tu dis, par contre, c'est que on imagine, enfin, au niveau de Muriel, peut-être, un moyen quand même de relayer rapidement l'information au niveau des habitants. Donc, vous savez, on est en train de finaliser et d'avancer bien sur le site web. Donc, est-ce que le site web pourra être un outil pour relayer tout ça? Il faut qu'on y réfléchisse. C'est dans le devoir des élus d'informer, de relayer cette information au niveau des habitants. Donc, il faudra qu'on réfléchisse peut-être à quelque chose. Moi, je pense que ça peut typiquement faire l'objet d'une petite réflexion de groupe, cette façon de s'organiser dans...
C'est
dans ce cas de figure.
Là-dessus, c'est la limite du système. C'est-à-dire qu'on peut être informé, mais on n'a pas les moyens d'informer les gens concernés. Ouais. Il faut qu'on trouve un système pour pouvoir... Alors, ça peut être fait soit par le toxin, ça peut être fait par la voiture de Karim qui circule en ville, ça peut être fait par le site web, suivant les niveaux, ça peut être... Mais il faut qu'on mette en place un système, et dans le cadre du PCS, on aura cette réflexion-là et la définition de ces moyens-là, plus adaptés compte tenu des risques que l'on a et des aléas qu'on va avoir et des enjeux qu'il y a, on aura les moyens adaptés qu'il faudra mettre en place.
Moi, je voudrais juste poser une question. L'organisme qui va être recruté pour travailler en gros sur le plan en fonction des seuils de vigilance, donc on va travailler, enfin, ce plan-là va être travaillé à partir de prédictions fictives. C'est-à-dire, voilà, si le seuil de vigilance est à ce niveau, cette réponse devrait être donnée.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est-à-dire qu'on va anticiper des schémas de catastrophe, on va dire, et mettre en regard une intervention de façon à ce que déjà on connaisse la réponse rapide au niveau de la commune.
Voilà, ils vont nous dire si l'eau arrive à tel point, je prends par exemple à la hauteur de la route ou à la hauteur du stade, par exemple, qui arrive au niveau touche le rebord, le rebord du stade, l'herbe, nous dira à ce moment-là, vous devez fermer telle route, vous devez alerter telle maison, la crèche ou la maison de retraite pour qu'ils se préparent, et puis, ou bien nous dire qu'il faudra les évacuer à ce moment-là. Ce sont des éléments physiques, très facilement visibles par tout le monde, et desquels on déclinera toute une série d'actions qu'il faudra mettre en œuvre.
Et ça, c'est en complément justement des informations qu'on avait par le préfet. On avait déjà les informations.
Oui, mais l'action, c'est nous qui l'avons.
Là, c'est des protocoles qu'on met en place qui sont prêts, en fait, des procédures qui sont prêtes avec des éléments clés de décision qui permettent de.
Et en fonction de la géographie du terrain.
Oui.
Tandis que peut-être par le préfet, c'était beaucoup plus.
Je me rappelle quand un des événements, on est allé avec Karim, on s'inquiétait pour la maison de retraite et la crèche, on est allé voir. Le ruisseau, il débordait pas, il était à ras. Donc on a surveillé, après ça a laissé. Mais il s'est arrêté de dire, si à ce niveau-là,
évacuation de la maison de
prévenez la maison de retraite que le ruisseau est à ce niveau-là et que si ça monte dans une heure ou dans deux heures, il faudra évacuer. Donc c'est ça, l'anticipation des décisions, prendre les bonnes décisions pour ne pas avoir des conséquences.
Bon, on a bientôt terminé. Je voulais juste vous informer que le prochain conseil municipal va se tenir aux alentours du 10 mars. On va vous envoyer aux alentours du 10 mars la note très rapidement. Donc on a besoin d'un... Il y aura pas mal de délibérations à prendre à ce moment-là. Et il ne se tiendra pas dans la salle du conseil, mais il se tiendra exceptionnellement dans la salle Lamouroux, puisque dans la salle de conseil, on va avoir une exposition qui s'appelle « La maison économe ». C'est une exposition sur les économies d'énergie dans les maisons de particuliers. Et donc c'est une exposition qui va notamment être ouverte au public en général, mais aussi aux écoles, aux centres de loisirs, etc. Donc pour qu'il soit facilement accessible et qu'il ne gêne pas les activités qui sont en salle Lamouroux, on a décidé de le faire ici. Donc exceptionnellement, le conseil municipal sera en salle Lamouroux ce jour-là. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je déclare la session close.